Non, l'essence. Alors, on continue notre série de prédications sur les sujets chauds, comme Samuel l'a dit. Si vous avez manqué l'une ou l'autre prédication, vous pouvez les retrouver en ligne sur le site de l'Église et réécouter ça. Et il faut dire que quand on aborde ces sujets, certains sujets paraissent plus chauds que d'autres, n'est-ce pas? Ou plus importants, ou plus tendus peut-être que d'autres. Et c'est certainement le cas pour les questions de genre et de sexualité. Et on parle ce matin du genre, du fait d'avoir été créé homme ou femme pour la gloire de Dieu. Et j'imagine qu'en abordant ce sujet, vous ressentez la tension. Comment affirmer ce que la Bible affirme sans être traité d'être intolérant? Comment résister face à la vague massive qui semble vouloir effacer, mettre de côté ce que les chrétiens ont toujours cru? Peut-être que lors du mois des fiertés, en juin, il y a quelques semaines, votre entreprise vous encourageait à faire quelque chose que, en tant que chrétien, en toute bonne conscience, vous ne pouviez pas faire. Peut-être que vous avez un ami, un membre de la famille, un collègue qui a été scandalisé d'entendre ce que vous croyez sur le sujet. Peut-être que vous avez peur pour vos enfants, pour ce qu'on pourrait leur enseigner à l'école. Bref, c'est impossible d'échapper au sujet et on se demande comment réagir. Il y a deux mauvaises réactions que j'aimerais mettre en avant juste pour commencer, et malheureusement, les chrétiens se trouvent trop souvent dans l'une de ces deux mauvaises réactions. La première mauvaise réaction, c'est la haine. C'est penser qu'on ne devrait avoir aucun contact avec une personne qui serait transgenre ou avec une personne qui aurait une orientation sexuelle différente, sinon pour les condamner. Une telle attitude n'est pas chrétienne. Et c'est triste de penser que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, malheureusement, une personne transgenre serait au mieux regardée de travers et pas saluée, et au pire, recalée. Faire cela, c'est exclure une catégorie de personnes de la grâce de Dieu, de l'espoir qu'apporte l'Évangile. Et comme on le verra, ce n'est pas l'attitude que Jésus avait sur terre. La deuxième mauvaise réaction, c'est ce qu'on pourrait appeler la permissivité. C'est permettre à chacun de croire ce qu'il veut sur les questions de genre et de sexualité, et permettre à chacun de vivre comme il veut, sans jamais les remettre en question. Tristement, c'est la tendance que semblent suivre beaucoup d'églises protestantes ou réformées aujourd'hui. Mais faire cela, c'est mettre de côté ce que la Bible enseigne sur le genre et sur la sexualité. C'est barrer, c'est mettre à la poubelle totalement l'autorité de la Bible comme étant la parole de Dieu. Plutôt, on veut dire la vérité, on veut exprimer sans honte ce que la Bible enseigne, en montrant pourquoi c'est une bonne chose que la Bible enseigne cela. Et on veut le faire avec compassion, avec compréhension. Et c'est ce que j'espère qu'on pourra faire ensemble ce matin. On va prier avant d'aller plus loin, avant de se poser quelques questions ensemble pour demander l'aide du Seigneur pour ce temps. Notre Dieu, on te prie que tu nous aides au travers de notre réflexion sur ce sujet à comprendre ce que tu nous as révélé dans la Bible par rapport à ce qu'est l'homme, ce qu'est la femme, les distinctions, les différences entre les genres, l'importance de maintenir ces différences. Et on te prie que tu nous aides à voir combien cela est bien plus beau, bien plus meilleur que tout ce qu'on pourrait trouver autour de nous. Aide-nous à voir combien ce que ta parole dit répond à toutes les problématiques que l'on peut rencontrer aujourd'hui, toutes les souffrances que l'on peut rencontrer aujourd'hui. On prie que tu te glorifies dans ce temps ensemble. On prie au nom de Jésus. Amen. Trois questions que j'aimerais qu'on se pose ce matin pour réfléchir à ce sujet. Vous les avez sur le petit feuillet qui vous a été donné. La première, qui décide qui je suis? Qui décide qui je suis? Et on va voir que mon identité est un cadeau de Dieu. Ce que la société nous dit aujourd'hui, c'est que le genre est un choix de notre part. Et en fait, plus que ça même, notre identité, ce que nous sommes, est un choix de notre part. Tout dépend de nous. Tout dépend au final de nos sentiments, de ce que l'on veut croire comme étant vrai. Je suis tombé sur un chant cette semaine qui résume bien un peu cet état de pensée, qui dit ceci: quoi qu'on puisse te raconter, quoi qu'on puisse te mettre en tête, quoi qu'on puisse te répéter, ce qui est vrai, c'est ce que toi, tu crois. Voilà ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Et tout nous enseigne ça. Netflix, Disney, la télé, l'école, Spotify, les Instagram, les réseaux sociaux, ce que je crois sur moi-même, ce que je veux être, alors c'est ça que je suis. Il n'y a pas de réalité objective, il y a seulement ma perception des choses qui définit la réalité. Et donc si on applique ça aux questions de genre, ça paraît logique. Ce n'est pas à toi de me dire si je suis homme ou femme, c'est à moi de le définir. C'est à moi de discerner, au fond de moi-même, ce que je veux être, ce que je me sens être. Et donc, ce qu'on appelle la théorie du genre va faire la distinction entre le sexe biologique d'un côté, notre apparence physique, nos chromosomes, etc., et de l'autre côté, le genre ou l'identité de genre, ce que je me sens être au fond de moi, que ce soit homme, que ce soit femme, ou ce qu'ils appellent un autre genre. Les deux sont distincts. Ils peuvent être en accord, ou ils peuvent être en désaccord, dans le cas des personnes transgenres. Et le genre peut changer, peut être fluide, parce que le genre ne se base pas sur des caractéristiques physiques, sur l'apparence, mais sur le ressenti, sur les sentiments, sur l'impression qu'on a de nous-mêmes qui peut évoluer. Vous savez, tout comme moi, que la foi chrétienne a un discours bien différent. Et la foi chrétienne ne se contente pas de dire que notre sexe biologique définit notre genre. Oui, c'est le cas, c'est ce que l'on veut dire en tant que chrétien, mais la foi chrétienne va plus loin que ça. La foi chrétienne offre un discours bien plus complet, bien plus beau, sur qui nous sommes en tant qu'êtres humains, sur notre identité en tant que cadeau de Dieu. Et j'aimerais qu'on ouvre la Bible et qu'on relise certains versets qui ont déjà été mentionnés dans cette série, dans Genèse au chapitre 1, des chapitres fondateurs, sur qui nous sommes, sur comment fonctionne le monde, et des chapitres auxquels il vaut la peine de revenir encore et encore. Et vous avez ces textes sur le feuillet, mais si vous avez une Bible, c'est super pour suivre cela. Genèse 1, et on va lire les versets 26 et 27. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Voilà qui nous sommes. Des êtres humains, hommes ou femmes, créés à l'image de Dieu. C'est ça que nous sommes, des images de Dieu. Le but d'une image, c'est de représenter la réalité. Peut-être que vous rentrez tout juste de vacances et vous êtes heureux de montrer autour de vous les photos des magnifiques paysages que vous avez vus. Et vous savez comme moi que les photos ne rendent pas justice à la réalité. La réalité est bien plus belle et bien plus grande. On montre une image, on se dit ouais, c'était encore plus impressionnant en vrai. Mais l'image pointe vers la grandeur, vers la beauté de ce qui est la réalité derrière l'image. Et c'est la même chose pour les êtres humains. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, créés par Dieu, l'image de Dieu. Nous pointons vers la grandeur et vers la gloire de Dieu. En voyant l'être humain, en voyant ce qu'il est et comment il agit, on apprend des choses sur Dieu, sur sa grandeur, sur sa bonté. Et c'est pour ça que le psalmiste, dans le psaume 139, comme on l'a lu, peut dire qu'on est des créatures merveilleuses. Parce qu'on pointe vers un Dieu qui est glorieux, qui est grand. Et c'est le privilège que l'on a d'être des porte-paroles, on pourrait dire, de la grandeur de Dieu. C'est un peu comme aux Jeux Olympiques, ceux qui sont les porte-drapeaux de leur pays. Bah, quel honneur, quel privilège qui représente tout un pays entier, leur pays. Bah, quel honneur, quel privilège pour nous, êtres humains, de représenter la grandeur de Dieu, de pointer vers la gloire de Dieu. Et il faut bien réaliser, bien comprendre que le fait d'être créé en tant qu'homme et en tant que femme fait partie de cette image, fait partie de ce reflet de la gloire de Dieu. Hommes et femmes, chacun individuellement et ensemble d'une manière toute particulière, reflètent la grandeur du Dieu créateur. Donc Dieu a créé l'être humain et il l'a créé homme et femme. Ce genre n'est pas un choix de notre part. Ce n'est pas quelque chose qu'on est appelé à discerner alors que l'on grandit. Ce genre est un cadeau que Dieu nous donne à la naissance et qui fait partie de qui nous sommes et qui fait partie de comment nous pouvons refléter la grandeur et la gloire de notre Créateur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de partir dans une quête d'identité pour essayer de découvrir qui on est vraiment. Bien sûr, on a tous des luttes à différents moments pour discerner ce qui nous plaît dans la vie, nos hobbies, notre personnalité, la direction de notre carrière et tellement de choses. Mais de manière fondamentale, on sait qui l'on est. On sait qu'on est un être humain, homme ou femme, créé par Dieu, à son image, et appelé à refléter sa gloire. Je sais qui je suis et je sais pourquoi j'ai été créé. C'est une bonne nouvelle aussi parce qu'on n'a pas à lutter pour rester qui nous sommes. Dieu ne nous crée pas homme ou femme en disant « voilà ce que vous devez faire pour le rester ». Non, il nous dit plutôt « voilà ce que vous êtes et vivez en conséquence ». Vivez en tant que tel. On devrait plutôt, et on va faire ça un peu plus tard, creuser ce que ça veut dire pour un homme d'être un homme et pour une femme d'être une femme et comment cela contribue à la gloire de Dieu. Donc qui décide qui je suis ? Mon identité est un cadeau de Dieu. Deuxième question, comment traiter ce qui ne va pas ? Comment traiter ce qui ne va pas ? Nos ressentis ne sont pas fiables. Peut-être que de dire ce que j'ai dit jusqu'ici vous semble un peu simpliste. Et on se dit, mais que dire alors à ces personnes qui disent être nées dans le mauvais corps, qui ont le ressenti d'être autre chose que ce que leur apparence dit d'eux-mêmes ? Il y a une souffrance réelle ici, que les chrétiens devraient reconnaître. Pour certaines personnes qui ont le ressenti que leur sexe biologique, leur apparence, ne correspond pas avec le genre qu'ils pensent être. Ces personnes sont beaucoup moins importantes en termes de nombre que ce qu'on voudrait nous faire croire, mais ces personnes existent et leur souffrance est réelle. On ne devrait pas ignorer ces personnes, on ne devrait pas les mettre de côté d'un revers de la main, mais on devrait plutôt chercher à les écouter, à comprendre leur souffrance, à partager leur souffrance. L'enjeu du débat que l'on a en tant que chrétien avec le mouvement transgenre ne se concentre pas sur le diagnostic de cette souffrance, mais plutôt sur la manière de traiter cette souffrance. Ce que le monde nous dira aujourd'hui, comme on l'a un peu vu, c'est que mes sentiments, ce que je ressens, définit la réalité. Je suis, au final, ce que je ressens. Et pour être vraiment heureux, pour vivre ma vie pleinement, il faut que j'aille dans le sens de mes sentiments. Il faut que je suive mes ressentis. Et de la même manière, la culture autour de nous dira que d'aller à l'encontre de ce que quelqu'un ressent, de ses sentiments, de remettre en cause les sentiments de quelqu'un, c'est profondément offensant, voire même discriminatoire. Donc, ce qu'on nous dira aujourd'hui, c'est que si je me sens être autre chose que ce que mon corps est, bah, c'est mon corps qui doit changer. Et la solution qu'on offrira aujourd'hui, que la culture offre, sera de donner des traitements hormonaux, des changements d'apparence, de la chirurgie, pour que mon corps puisse correspondre à mes ressentis. Mais là encore, la Bible a un discours différent. Parce que l'une des bases de la vie chrétienne, c'est d'aller à l'encontre de nos sentiments. Parce qu'on reconnaît que nos sentiments sont corrompus. En fait, l'essence de la foi chrétienne, c'est de contredire nos ressentis en nous appelant à nous repentir et à nous confier en Christ, alors que notre ressenti, c'est que tout va bien. On n'a pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin d'un sauveur. J'ai pas besoin de me repentir. Mais la foi chrétienne nous appelle à aller à l'encontre de ce que l'on ressent. Le point de vue chrétien porte un regard différent sur le monde en voyant un monde corrompu, un monde déchu. Et on reconnaît en tant que chrétien que le monde qui nous entoure n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé. Dans Genèse, au chapitre 3, l'homme et la femme rejettent la bonne autorité de Dieu. Ils tournent le dos à leur Créateur pour vivre dans l'indépendance égoïste. Et cette désobéissance, elle a des conséquences cosmiques. La création tout entière est atteinte, corrompue, et l'être humain devient pécheur au plus profond de lui-même. L'être humain naît désormais avec des désirs qui sont contraires à ce que Dieu veut, avec un cœur qui est corrompu. C'est comme, on dit parfois, le volant d'une voiture qui a un problème de direction. Ça va toujours dans la mauvaise direction, ça ne va jamais au bon endroit. Donc c'est normal, si notre cœur est ainsi, que tous nos désirs ne soient pas bons, que nos désirs doivent être corrigés et réalignés avec le plan de Dieu. Comme le dit un auteur chrétien, Christopher Yuan, pour les chrétiens, ce qui est du domaine de l'inné n'est pas forcément juste ou légitime. Être né pécheur ne rend pas le péché excusable. Nous devons réorienter les gens vers ce qui est vrai. Quel que soit ton état à ta naissance, Jésus dit que tu dois naître de nouveau. L'être humain est coupable lorsqu'il laisse libre cours à ses désirs pécheurs. Mais il faut aussi réaliser que l'être humain en est victime. Toute la création a été atteinte par la chute, y compris l'être humain. Il a été atteint par l'entrée du péché dans le monde, par les conséquences que ça a entraînées. Et c'est également un verset qu'on a déjà cité dans cette série, mais je lis à nouveau Romains chapitre 8, versets 20 et 21, qui se trouve sur le feuillet à nouveau. Romains 8, verset 20, nous dit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude ou de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce verset nous montre que la création, y compris l'être humain, est esclave de la corruption. La réalité qui nous entoure ne correspond plus sur tous les points à l'intention de Dieu dans la création, y compris en ce qui concerne nos ressentis, nos sentiments, ce que nous pensons de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'une personne peut ressentir un décalage entre son apparence physique et sa perception d'elle-même. Un homme qui lutte avec le fait d'avoir été créé homme, ou une femme qui lutte avec le fait d'avoir été créée en tant que femme. Ce n'est pas qu'une telle personne a péché pour que cela ait lieu, et ce n'est pas que le fait de ressentir ce décalage est un péché. Mais la réponse chrétienne n'est pas que, alors dans ce cas, notre corps s'aligne à nos ressentis, mais plutôt que nos ressentis s'alignent à notre corps et à l'intention de Dieu dans la création, en nous créant. C'est un autre sujet, mais c'est la même chose avec l'attirance envers les personnes de même sexe. Les chrétiens ne devraient pas être silencieux là-dessus, c'est une réalité que certains ressentent une attirance pour les personnes du même sexe. Ce n'était pas l'intention de Dieu dans la création. Et là encore, ce n'est pas le fait de ressentir cela qui est un péché. Mais ce qui est un péché, c'est de laisser libre cours à ce sentiment, à cette attirance, alors que cela va à l'encontre du plan de Dieu pour la sexualité. Et c'est la même chose pour le genre, pour la sexualité et pour tous les autres sujets. Nous ne sommes pas appelés à laisser libre cours à nos désirs. Le fait qu'on ressente quelque chose n'en fait pas une chose légitime. Nous sommes plutôt appelés à maîtriser nos désirs et à les aligner avec le plan de Dieu. Un auteur chrétien compare l'être humain à une œuvre d'art qui doit être restaurée. Si on vous donne la tâche de restaurer une œuvre d'art, vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous dire « Ah ben j'ajoute une voiture ici, et puis je vais peindre ça en rose, et puis voilà, je fais ça vraiment comme je voulais. » Non, vous allez restaurer l'œuvre d'art selon l'intention que l'auteur avait, selon la manière dont l'auteur l'avait faite à la base, en remettant la couleur qui était là à l'origine, en redessinant les contours tels que l'auteur lui-même les avait dessinés. Et c'est la même chose pour l'être humain, c'est une bonne image de l'être humain. On veut aligner nos désirs, nos ressentis aux contours que Dieu a déjà dessinés dans la création. Lorsque Dieu nous a créés à son image, comme reflet de sa gloire, en tant qu'homme ou en tant que femme. On veut aligner nos désirs sur son plan pour la sexualité, et on a vu ça également dans notre série. Son plan pour la sexualité est le cadre du mariage, l'engagement d'un homme et d'une femme pour la vie. C'est vrai que c'est un sujet qui peut être très personnel, et si vous ressentez des désirs dans ce domaine qui ne correspondent pas à la réalité de qui vous êtes, parlez-en. Ne gardez pas le silence sur ces sujets-là. C'est vrai que ça peut être difficile d'oser parler de ces choses, d'oser s'exprimer, d'avoir peur d'être rejeté, d'être mal compris. Mais j'espère que l'Église, j'espère que cette Église serait un lieu où on pourrait partager nos luttes avec transparence, avec compassion, avec compréhension. Parce qu'on lutte tous avec des désirs qui ne correspondent pas à l'intention de Dieu dans la création. Et c'est ça la vie chrétienne, de mettre de côté, par la puissance de Christ en nous, les désirs qui sont loin de ce que Dieu veut. Et d'embrasser, de saisir ce que nous sommes, ce qui est bon, ce qui est juste, en réalisant que c'est ça qu'il y a de meilleur, que c'est pour ça qu'on a été créé, et que c'est là que se trouve le vrai bonheur, la vraie satisfaction. Et tout ça, ça commence avec un cœur transformé par l'Évangile, qui nous amènera justement à voir que ce que Dieu veut pour nous est bien meilleur que ce que l'on veut pour nous-mêmes. Parce que ces désirs mauvais sont le reflet d'un problème bien plus grand qui nous concerne tous. Le problème de notre rejet de Dieu. Le problème du péché. Chacun en est coupable de différentes manières. Et chacun de nous fait face au juste jugement de Dieu, qui est saint, qui est totalement pur. C'est pour ça justement que Jésus vient offrir une nouvelle naissance. Regardez ce que Jésus dit à Nicodème, un chef religieux de l'époque. Il lui dit ceci, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » L'être humain a besoin d'un nouveau départ, de repartir à zéro, d'un pardon complet. Et tout le monde est concerné. Ici, Jésus ne parle pas à quelqu'un qui a une morale qui nous semblerait un peu hors de ce que nous, on proclamerait en tant que chrétiens. Mais ici, Jésus parle à un chef religieux, à quelqu'un qui avait, une morale impeccable, des règles éthiques. On n'aurait rien à dire. Il lui dit, mais toi aussi, Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. Il cible le problème de son cœur. Ça concerne chacun de nous, peu importe qui on est. Et c'est Jésus qui rend cette nouvelle naissance possible. Quelques versets plus loin, voilà ce qu'il dira à Nicodème, et on connaît bien ces versets de Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus pour qu'en croyant en lui, on évite le jugement qu'on mérite et on reçoive le pardon, la vie éternelle comme un cadeau. Jésus est mort sur la croix en prenant la condamnation, le jugement qu'on devait recevoir. Jésus donne sa vie par amour, pour sauver. En plaçant notre confiance en Jésus, on reçoit le pardon, la vie nouvelle, un nouveau départ, une transformation complète. On est, comme la Bible le dit et comme on l'a chanté, une nouvelle création. Ce n'est pas que cette nouvelle naissance règle tout, et ce n'est pas que cette nouvelle naissance efface tout. On reste créé à l'image de Dieu, homme ou femme. Ça, c'est un fondement de l'intention de Dieu qui fait partie de ce que Dieu a fait même avant la chute. Et on continue à lutter avec les conséquences de la chute. On fait toujours partie de ce monde qui est esclave de la corruption et on attend la libération finale. Mais cette nouvelle naissance nous donne un cœur nouveau qui nous permet de voir en quoi le plan de Dieu pour nous est bien meilleur, qui nous aide à voir les choses comme Dieu voit, pour vivre comme Dieu veut. Alors comment traiter ce qui ne va pas? Nos ressentis ne sont pas fiables. Et la troisième question pour nous ce matin, comment vivre ce que je suis? Hommes et femmes sont égaux, différents et complémentaires. La Bible n'est pas silencieuse sur ce que signifient les genres, hommes ou femmes, et on a besoin de savoir ça pour vivre pleinement ce que nous sommes. Et j'aimerais mettre en avant trois choses que la Bible nous enseigne par rapport à l'homme et la femme, que nous sommes égaux, différents et complémentaires. Égaux d'abord, on l'a vu, hommes et femmes sont tous les deux créés en tant qu'image de Dieu. Il n'y a pas de différence de valeur entre l'homme et la femme. Ils sont au même niveau devant Dieu. Ils sont tous les deux tout aussi êtres humains qu'on pourrait l'être. Il n'y a pas de différence là-dessus. Être une femme ne vaut pas mieux qu'être un homme. Et être un homme ne vaut pas mieux qu'être une femme. C'est vrai que ce principe d'égalité de valeur n'a pas toujours été respecté dans l'histoire et n'est pas pleinement respecté aujourd'hui dans toutes les cultures. Et là aussi, on voit les conséquences désastreuses de la chute qui a corrompu même les relations entre l'homme et la femme. Il n'y a pas, il ne devrait pas y avoir de différence de valeur. Donc, égaux. Ensuite, on voit que l'homme et la femme sont différents. Il y a d'abord une différence physique, biologique, qu'on ne peut pas nier. C'est pour ça que, en un sens, les personnes transgenres cherchent à modifier leur corps pour correspondre à ce qu'ils pensent être leur nouveau genre. En faisant ça, ils reconnaissent bien qu'être homme ou femme est lié d'une certaine manière à l'apparence physique, à des caractéristiques biologiques. Mais il y a aussi des différences de caractère, de tempérament, de personnalité. C'est vrai que ces différences varient en fonction de chaque culture, de chaque époque. C'est vrai qu'une partie de ce qui fait qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme sera définie par la culture, par la société, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y aura des différences entre les hommes eux-mêmes et entre les femmes elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'un moule uniforme. Cependant, il y a néanmoins des différences qui sont réelles, qui sont là, qui existent. Des schémas, des principes, des fondements de base qui définissent qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, même au-delà des caractéristiques physiques et biologiques. Et j'aimerais qu'on creuse ça un peu dans 1 Corinthiens 11, un passage du Nouveau Testament. Donc si vous pouvez prendre le livret ou ouvrir 1 Corinthiens 11. Il y aurait des avis différents sur la manière d'interpréter ce chapitre, et on peut être d'accord d'être en désaccord maintenant qu'on a lu le livre de James, n'est-ce pas ? Mais je crois que Paul parle ici du port du voile par les femmes dans le cadre d'un rassemblement chrétien comme d'un élément culturel de l'époque. Donc les femmes à Corinthe, au 1er siècle, avaient la coutume de porter un voile, et le fait de ne pas le porter, ou le fait pour les hommes de porter un voile, communiquait quelque chose de faux sur leur genre et sur leur rôle. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce que j'aimerais qu'on voit ici, c'est comment Paul base ce qu'il dit sur justement ces différences de rôle et ces différences de genre qui doivent être maintenues entre l'homme et la femme. Et selon la coutume de l'époque, le fait de ne pas respecter ce qui se faisait par rapport au voile remettait en cause ces différences de genre et de rôle. Mais creusons pour voir quelles sont ces différences. D'abord, je lis 1 Corinthiens 11 et je lis les versets 3 à 6. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Pourquoi est-ce que Paul dit tout ce qu'il dit ici ? D'abord, Paul veut mettre en avant une différence de rôle. Il dit au verset 3 que l'homme est le chef de la femme. Il ne faudrait pas penser ici à un boss au travail qui serait vraiment tyrannique ou à un dictateur cruel. Voilà comment l'homme est le chef de la femme. Non, il s'agit plutôt ici, et c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer dans la culture dans laquelle on vit, il s'agit ici d'une autorité bienveillante. Il faut penser plutôt ici à l'homme, le chef de la femme, comme Jésus lui-même est le leader, le chef, le serviteur de l'Église elle-même. Paul met en avant ici une structure d'autorité, de responsabilité, une structure que l'on voit établie dans Genèse chapitre 1 et 2, si on parcourt ces chapitres. Et Paul va d'ailleurs se baser sur Genèse 1 et 2, surtout dans les versets 7 à 9 qu'on ne va pas lire, mais pour montrer que c'est ça la base de cette structure d'autorité où Dieu a donné la responsabilité première de gérer la création à l'homme, un rôle de protection, d'initiative, de leadership bienveillant. Cette différence de rôle n'est pas une différence de valeur. Et comme on va le voir, la femme est indispensable pour que l'homme accomplisse cette mission. Mais il y a une différence de rôle qui est réelle et qui est à maintenir. Et on voit ça quand le Nouveau Testament explique les rôles différents qui existent entre l'homme et la femme au sein de l'Église et au sein de la famille. C'est pour ça qu'on croit dans cette Église, par exemple, que le rôle d'enseignant ou d'ancien ou de pasteur est réservé aux hommes. Il ne s'agit pas d'une différence de valeur, mais d'une différence du rôle que nous sommes appelés à assumer. C'est cohérent avec ce qu'on voit en Genèse 1 et 2, c'est cohérent avec ce qu'on voit en 1 Corinthiens 11, et c'est cohérent avec ce qu'on voit dans le reste du Nouveau Testament. Donc le premier principe, c'est une différence de rôle qui doit être maintenue. Deuxième principe que Paul veut mettre en avant ici, c'est une différence de genre. Paul dit au verset 6 que pour une femme de ne pas porter de voile, c'est comme si elle était rasée, comme au final si elle ressemblait à un homme. Et il dit que ce n'est pas correct. C'est ce qui m'amène à croire que l'enjeu à la surface ici est culturel. Une femme qui ne portait pas de voile à Corinthe, à l'époque, ça communiquait quelque chose par rapport à son genre qui n'était pas correct. C'est comme si elle était rasée, comme si elle ressemblait à un homme. Et le souci pour Paul, le principe de base, c'est qu'on respecte les différences de genre. les femmes doivent ressembler à des femmes et les hommes doivent ressembler à des hommes. Il ne faut pas gommer ces différences. C'est ce qu'on voit aussi avec les versets un peu plus loin, versets 13 à 15, que je vais lire de 1 Corinthiens 11. Au verset 13, Paul écrit « Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter ? En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. » Ce n'est pas que c'était toujours une honte pour un homme d'avoir des cheveux longs. On voit justement dans la Bible des exemples de Samson, d'Absalom et d'autres hommes qui avaient des cheveux longs. Et donc, on voit ici que c'est un élément culturel. Pour Paul, à l'époque où il écrit, ça l'était. C'était quelque chose que uniquement les femmes faisaient. Et donc, pour un homme de faire cela n'était pas approprié. Voilà ce que Kevin DeYoung, un théologien chrétien, dit par rapport à ce verset. Quand Paul dit que la nature elle-même enseigne que les cheveux longs sont une honte pour l'homme, il ne fait pas une déclaration universelle sur la longueur des cheveux, mais il fait deux déclarations universelles sur le genre. Premièrement, il affirme qu'il n'est pas juste que les hommes ressemblent à des femmes. Deuxièmement, il dit que ce à quoi cela ressemblera sera déterminé d'une certaine manière par la culture. C'est vrai que l'expression de la masculinité ou de la féminité va varier en fonction de la culture. Par exemple, dans la plupart des cultures, un homme qui porte une jupe, c'est bizarre. Mais en Écosse, si c'est un homme qui porte un kilt, c'est masculin, c'est normal, c'est approprié. Donc la manière de vivre ces différences va varier. Ce n'est pas figé. Mais le souci de Paul ici, et le souci qu'on devrait avoir en tant que chrétien, c'est que cette différence soit maintenue. Il y a une différence qui existe. Donc égaux, différents, et enfin l'homme et la femme sont complémentaires. C'est intéressant de voir que dans ce chapitre 11 de 1 Corinthiens, Paul écrit le verset 12, qui n'est pas un verset qu'il utilise, sur lequel il se base pour dire quelque chose par rapport au voile, mais qu'il met juste là comme ça, et ça nous enseigne quelque chose de très profond. Il dit au verset 12, « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. » Ici, Paul veut être certain de ne pas être mal compris. Il n'est pas en train d'élever l'homme au-dessus de la femme ou de faire une différence de valeur entre les genres. On a besoin l'un de l'autre. Et les deux sont indispensables pour accomplir le plan de Dieu. Hommes et femmes sont différents, mais complémentaires quand justement ils sont différents. On voit ça dans Genèse, au chapitre 2 également, quand Dieu dit à propos de l'homme, « Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Et cette aide dont Dieu parle, c'est la femme qu'il va créer juste après. Le mot « aide » n'a rien de négatif. Il est utilisé dans la Bible pour parler de Dieu qui vient en aide à son peuple. Donc ce n'est pas une notion d'infériorité de valeur. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais ça fait plutôt référence au rôle indispensable de la femme pour œuvrer aux côtés de l'homme et pour accomplir ensemble la tâche que Dieu leur a confiée. L'Église, la société, ne pourrait pas fonctionner avec que des hommes ou avec que des femmes. On a besoin les uns des autres. Et on a besoin de chacun vivre pleinement ce que l'on est, soit homme, soit femme, pour le bien de l'Église, pour le bien de la société. La crise que l'on vit aujourd'hui, c'est donc un appel urgent à retrouver ça. Ce que ça signifie pour un homme d'être un homme, et ce que ça signifie pour une femme d'être une femme. S'il y a tant de troubles aujourd'hui pour comprendre ce que nous sommes, pour avoir des troubles d'identité, c'est peut-être parce qu'on a arrêté d'enseigner ces choses. Ce que ça signifie pour un homme d'être un homme et pour une femme d'être une femme. On confond les genres, on les mixe, au lieu de les garder distincts et d'en montrer leur bonté, combien ils sont tous les deux nécessaires et complémentaires. C'est vrai qu'on est trop souvent bloqué dans des stéréotypes. Les hommes aiment le foot, les femmes font la cuisine. On doit mettre à la poubelle les stéréotypes. On doit accepter la diversité parmi les hommes et parmi les femmes. Et on doit plutôt s'attacher au schéma, au principe que la Bible met en avant, et voir comment cela se reflète de manière différente dans chaque culture, dans chaque époque. Alors, il faudrait tout un autre enseignement là-dessus pour expliquer ça, mais j'aimerais juste, alors qu'on termine gentiment, citer une proposition de définition de la masculinité biblique et de la féminité biblique par un auteur chrétien, Jonathan Lehman, et c'est peut-être l'occasion pour nous en discuter. Voilà ce qu'il dit. L'essence de la masculinité biblique se manifeste par le sens de la responsabilité bienveillante envers la création de Dieu, de pourvoir aux besoins des autres, de les protéger, et d'exercer un leadership affectueux et sacrificiel dans les contextes particuliers prescrits par la parole de Dieu. La féminité biblique se manifeste par une disposition gracieuse à cultiver la vie, à aider les autres à s'épanouir, ainsi que conforter, recevoir et alimenter la force et le leadership d'hommes qui en sont dignes dans les contextes particuliers prescrits par la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'une telle définition est parfaite et complète. On pourrait discuter, on pourrait adapter, on pourrait creuser. Mais ce qui est clair, c'est qu'on doit pouvoir expliquer qu'il y a une distinction. Et à quoi ressemble cette distinction? Dans quelle direction va cette distinction, cette différence? Et pourquoi on a besoin de ces différences? Donc je soulève ça plutôt comme une occasion pour chacun de nous de discuter de ces choses ensemble, d'aller peut-être voir un frère ou une sœur plus âgé de l'Église et lui demander mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être homme ou d'être femme? Comment est-ce que tu vis cela dans l'Église, dans la société? C'est aussi un rappel pour les parents de cette Église que Dieu vous a donné la responsabilité d'éduquer vos enfants sur ces sujets. C'est facile de craindre la vague anti-Dieu qui s'élève autour de nous, dans la société, dans l'école, mais ça devrait renforcer la responsabilité que Dieu vous donne de donner à vos enfants les réponses que la Bible offre sur ces sujets si importants. Ce n'est pas qu'on a toutes les réponses à toutes les questions, mais on va pouvoir avancer chacun de nous, en tant qu'homme, en tant que femme, pour la gloire de Dieu. Je veux juste conclure avec trois brefs mots pour résumer ce qu'on a dit pour conclure ou pour aller plus loin. Compréhension, compassion, évangile. J'aurais pu faire 3C, mais je n'ai pas réussi, et Steve n'était pas là pour m'aider. Donc compréhension d'abord. On ne peut pas rester dans notre bulle chrétienne en ignorant ce qu'il se passe autour de nous. On doit s'intéresser au sujet pour comprendre les enjeux, pour comprendre les arguments de ceux qui ne pensent pas comme nous, pour comprendre ce qui est cohérent avec un point de vue chrétien et ce qui ne l'est pas, là où ils ont raison et là où ils ont tort. On doit prendre part aux conversations sur le sujet plutôt que d'être passif, pour montrer combien la vision biblique du genre est bien meilleure, bien plus bonne, et on n'a pas à en avoir honte. Un livre que je recommande, qui est à la librairie là-bas au fond, « Dieu et le débat transgenre », qui est très bien écrit, qui est une bonne introduction au sujet, et qui permet de voir comment on peut raisonner sur ce sujet-là et comment raisonner avec ceux qui nous entourent et qui pensent différemment. Il est sur la librairie et dans le mail qu'on enverra plus tard. Je mettrai également des articles qui peuvent vous aider à aller plus loin et un autre livre qui est à recommander sur le sujet. Donc, compréhension d'abord. Deuxièmement, compassion. On doit faire preuve de compassion envers les individus. Oui, on veut dire ce que l'on croit, on ne veut pas cacher la vérité, on ne doit pas en avoir honte, mais la haine n'a pas sa place. On doit partager cette vérité avec amour, avec compréhension. On est tous créés à l'image de Dieu, et même ceux qui se considèrent transgenres sont et restent créés à l'image de Dieu, ont une dignité particulière devant Dieu. On doit avoir la même attitude que Jésus qui accueillait tout le monde, qui mangeait avec les pécheurs et avec les gens de mauvaise vie, qui partageait leur vie et qui, en même temps, les appelait à la repentance sans détour. Et enfin, évangile. On ne veut pas se focaliser sur le genre ou sur la sexualité comme si c'était ça le problème le plus grave, le problème essentiel. On veut plutôt se focaliser sur le cœur qui rejette Dieu, sur le manque de foi en Christ qui est à la racine de tout. On veut que les gens entendent de notre bouche non pas la haine, non pas le mépris, mais le beau message de l'Évangile. La bonne nouvelle du salut en Jésus pour tous ceux qui se détournent de leurs péchés et tous ceux qui se confient en Christ. On veut appeler tout le monde à se soumettre à Jésus, le roi de l'univers, parce que c'est ça le plus important. Alors oui, lançons-nous dans ces discussions, réfléchissons, creusons le sujet, mais n'oublions jamais l'enjeu du débat. L'enjeu éternel, la réalité du salut qui se trouve en Christ. C'est ça qui est le plus important. Je vais prier pour terminer, et puis je laisserai la place à Samuel. Mais notre Dieu, nous avons besoin de toi dans ce monde pour vivre en tant que disciples de Jésus de la bonne manière. Aide-nous à allier l'attachement à la vérité, à ce que tu as parole enseigne sans honte, sans crainte. Aide-nous à allier cela avec la compassion, la compréhension de ceux qui nous entourent. On te prie que tu nous aides à être des bons exemples de cela pour les gens autour de nous. à imiter ceux qui font cela de la bonne manière, pour que beaucoup entendent la bonne nouvelle de Christ, le salut dont ils ont besoin. On prie cela dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.